en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Edith Canadechizy, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, dois-je rappeler que vous êtes bien sûr compositeur et vous êtes directeur du Conservatoire du 7e arrondissement de Paris, donc c'est une de vos activités, et vous venez d'être élu et d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts.
Tout à fait.
Votre entrée sous la coupole s'était faite le
14 décembre dernier.
Il faut souligner que vous êtes la première femme compositeur à entrer à l'Institut de France.
Oui, 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 tout à fait.
Et il n'y a pas beaucoup de femmes compositeurs, en fait.
Mais si, il y en a. C'est que je pense que ça n'était pas entré dans les mœurs académiciennes, faut croire. Parce que c'est vrai que l'entrée des femmes à l'Institut de France est quand même relativement récente. Voilà, donc après l'Académie française, voilà, je suis donc la première femme compositeur à l'Académie des Beaux-Arts. C'est vrai qu'il n'y en a pas non plus, ni en peinture, ni en sculpture, ni en architecture. Et pourtant, je pense que c'est pas les femmes architectes qui manquent, ni les peintres. Faire.
Vous prenez place à l'Académie des Beaux-Arts, au siège de Jean-Yves Daniel Lezur, qui lui-même était professeur de Maurice Ohana, qui a lui-même vous a enseigné. Vous étiez déjà élève bien abouti, mais vous avez été disciple de Maurice Ohana. Est-ce que vous avez rencontré monsieur Daniel Lezur?
Moi, je ne l'ai pas rencontré, Daniel Lezur. Simplement, j'ai beaucoup entendu Maurice Ohana m'en parler. D'abord, il est resté en relation avec lui pratiquement jusqu'à sa mort. Et il avait gardé une grande admiration pour lui. Donc, c'est vrai que j'ai fait notamment tout mon discours d'installation sur cette transmission. Ce phénomène, enfin cette idée de transmission est très importante. Je pense qu'on a, à partir d'un certain moment, à transmettre un héritage, et c'est ce que j'essaye de faire à travers justement mes élèves. Et chaque fois que je peux en parler, bien sûr.
Et cette filiation est directe musicalement, je parlais?
Non, je dirais c'est plutôt une filiation d'idées. Hein. C'est plutôt, je dirais même que c'est plus une filiation d'éthique musicale. Enfin, une certaine façon de concevoir la musique, certaine façon de concevoir la composition. Vous savez, il y a des courants dans l'histoire de la musique, et je pense qu'on réalise à un moment qu'on s'inscrit dans tel ou tel courant. Donc voilà, c'est comme ça que se fait l'histoire de la musique, d'ailleurs. On est des maillons reliés les uns aux autres.
Et justement, à propos d'enseignement, comme vous êtes directeur du Conservatoire du 7e, est-ce qu'il est difficile d'enseigner la musique contemporaine?
C'est-à-dire que ça ne s'enseigne pas. Une classe de composition, c'est transmettre son savoir, c'est transmettre son expérience. Et je pense que c'est ça qu'attendent les jeunes.
Et dans le cadre du Conservatoire du 7e, est-ce que vous mettez un point particulier à diffuser la musique contemporaine? Est-ce que c'est quelque chose?
Disons que là, c'est un établissement d'enseignement de la musique, donc qui s'adresse à des gens de l'âge de 7 à une trentaine d'années.
Donc la musique dite classique.
Maintenant, c'est vrai que l'année dernière, par exemple, on a fait une semaine autour de la musique contemporaine, et ça a beaucoup plu. On a justement réuni les professeurs, les élèves, les parents d'élèves. Donc voilà, ça permet de faire connaître
une musique qui est quand même méconnue.
Qui est, qui est méconnue. Oui, enfin, j'espère que ça a toujours un petit peu été, mais c'est vrai que c'est très important à l'heure actuelle de faire en sorte que cette musique soit mieux connue. Bon, par exemple, il y a beaucoup de résidences de compositeurs qui se développent de façon à ce qu'il y ait des contacts entre les compositeurs et le public. Parce que le public est un peu intimidé, finalement, par rapport à cette musique. Il se dit, je connais pas, ou j'ai pas appris, et c'est une idée fausse, en fait. C'est beaucoup une question de curiosité. D'écoute. Et quand le compositeur est là pour expliquer sa démarche, du coup, il y a une écoute qui est bien meilleure, et puis vraiment une relation qui s'établit avec l'auditoire.
Une confiance.
Oui, une confiance. Et je crois qu'il y a surtout un problème de mémoire, c'est-à-dire que les gens attendent quelque chose qu'ils connaissent déjà, de façon à s'y repérer. Le plus difficile, c'est de les amener à perdre leur repère, justement, et à écouter quelque chose qui est complètement nouveau et qui les emmène ailleurs, parce que j'aime beaucoup ce thème de l'ailleurs.
Pour parler de votre filiation, de votre œuvre, Maurice Ohana, vous avez inscrit dans une filiation avec le compositeur Debussy. Et il avait dit que votre musique n'a d'autre ambition que de faire aimer cette magie des sons qui raconte l'histoire du monde telle que Debussy l'avait rêvé. Est-ce que vous assumez, est-ce que vous revendiquez cette filiation avec Claude Debussy?
Oui, alors on dit beaucoup ça de la musique française. On dit qu'il y a une certaine volupté sonore qui correspond à la musique française. En fait, la particularité de la musique de Debussy, c'est d'avoir été le premier, ou en tout cas, pas le premier, mais en tout cas celui qui l'a exprimé le mieux, le rapport de la musique au son. au phénomène sonore. Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y a tout un courant de la musique contemporaine qui s'est développé, dont la musique spectrale, justement, c'est-à-dire, c'est le son qui est à l'origine de la forme de l'œuvre. Donc, en ce sens-là, je revendique tout à fait cet héritage, de par, effectivement, aussi le parcours de Maurice Ohana, qui s'inscrit également dans cette trajectoire. C'est-à-dire, c'est vraiment le phénomène sonore en tant que tel qui est valorisé.
Donc une démarche impressionniste aussi, on peut dire ?
Oui, on peut faire le parallèle, effectivement. On peut faire le parallèle en ce sens que l'impressionnisme est une exaltation de la couleur en tant que telle.
On parle beaucoup d'ailleurs à propos de votre œuvre de matière sonore, de couleur.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous pouvez vous comparer, en étant à l'Académie des Beaux-Arts d'ailleurs, à d'autres arts, tels que la sculpture ou la peinture ?
Ah, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à trouver, enfin à gagner, justement dans la connaissance des autres arts. J'ai fait notamment une licence d'histoire de l'art qui m'a beaucoup appris à ce niveau-là, et notamment au niveau de la peinture et de la sculpture contemporaine, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié à cette époque-là. Et effectivement, il y a des relations, des réminiscences qui nourrissent la musique, et réciproquement d'ailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup de peintres qui aiment beaucoup la musique, et on en discute entre confrères. Souvent, et moi particulièrement, bon, c'est vrai que j'ai une relation à la peinture qui est de plus en plus importante.
On va voir ça plus tard avec une de vos œuvres. On dit aussi beaucoup de vous que vous privilégiez la famille des cordes. Et effectivement, vous êtes violoniste de formation, oui. Si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez réellement un rapport privilégié avec les cordes ? Est-ce que c'est une famille d'instruments que vous privilégiez lors de vos compositions ? En même temps, vous avez aussi écrit pour la voix.
D'abord, je suis née dans une famille très mélomane. Ensuite, ma tante était violoniste professionnelle, donc j'ai commencé très tôt avec elle. Et dès que j'ai su jouer, j'ai fait de la musique de chambre. J'ai fait du quatuor à cordes, j'ai fait du quintet, voilà. Donc c'est vraiment, j'ai baigné dedans, c'est vraiment mon univers. Et c'est à partir de là que, presque inconsciemment, s'est constitué tout mon univers sonore. Et c'est à partir de là que je pense que toute ma musique est issue de ce monde des cordes, oui, c'est vrai. Outre le fait que, bien sûr, il y a un acquis, un savoir-faire du fait que j'ai quand même beaucoup pratiqué le violon, j'ai enseigné pendant 10 ans le violon, donc c'est un instrument que je connais très très bien, et que je sais très bien écrire pour les cordes, donc c'est aussi un plaisir. Mais c'est quand même un univers qui m'est particulièrement cher, et puis effectivement l'univers vocal aussi, parce que c'est en rapport... avec les cordes peut-être aussi. C'est aussi un univers qui est très très riche en timbres. Je crois que c'est pour ça aussi que j'aime particulièrement ces deux univers sonores. Ce sont des univers qui sont très riches et qui suggèrent justement autre chose, un autre monde sonore que le leur, qui sont très aptes à suggérer un autre univers sonore que le leur.
À suggérer ou à imiter parfois d'autres univers sonores.
Oui, suggérer ou à imiter. Par exemple, on peut suggérer, par exemple, en utilisant des harmoniques de cordes. On croirait entendre des hautbois ou des cors par moment. Donc voilà, j'aime bien détourner les sources sonores pour en imaginer d'autres.
Edith Canet de Chussy, donc ce quatuor Vivere s'inscrit donc dans un disque qui est consacré à différentes œuvres pour cordes, une œuvre pour violon seul, une œuvre pour deux contrebasses. À propos de l'intitulé Vivere, je regarde les autres intitulés d'œuvres, Tiempo, Irisation, Moving, Vivere, Hallel et Danse de l'aube. On sait que chaque compositeur met un soin particulier à choisir ces titres d'œuvres et qui correspond à un univers aussi.
Oui, alors ça, c'est toute une série d'œuvres pour cordes qui sont inspirées enfin, par l'idée de mouvement. J'ai beaucoup donc cherché à travailler dans cette dimension parce que, étant instrumentiste, donc étant violoniste, il y a une grande importance du geste instrumental dans ma musique. Et notamment, justement, cette idée de mouvement à laquelle se prête particulièrement l'écriture pour les cordes.
Mouvement de l'archet.
Le mouvement de l'archet, voilà. Le mouvement, et mon trio à cordes s'appelle Moving aussi, donc c'est pour ça que le disque lui-même est intitulé Moving, donc c'est un disque qui date de 2002, qui est paru aux éditions Eon. Pour revenir au titre, le titre aussi c'est autour de cette idée de mouvement et autour de l'idée d'énergie. Donc ce quatuor à cordes s'intitule Vivere, qui donc reprend cette idée d'énergie qui est très fréquente dans mes intitulés d'œuvres. Et c'est une notion aussi que j'aime beaucoup, notion de vie, d'énergie dans ma musique.
Ce qui revient souvent aussi comme intitulé de vos œuvres, ce sont des références soit religieuses, soit mystiques, ou à la mystique hébraïque ou chrétienne.
Oui.
C'est un choix délibéré.
Ben là, il y a aussi dans ce disque un trio à cordes qui s'appelle Hallel. Donc Hallel, c'est Alléluia, c'est l'origine d'Alléluia, c'est les psaumes du Hallel, ce sont des psaumes de louange. Et là aussi, il y a cette idée de vie qui est très présente. Donc pour moi, effectivement, le lien avec la spiritualité, elle est plutôt dans cette idée d'énergie justement, et de vitalité, de puissance de vie. Voilà, c'est un petit peu ça.
J'ai lu aussi que vous refusiez pourtant de parler de musique sacrée.
Oui,
comment dire ? Parce qu'il y a quand même plusieurs œuvres qui font référence au sacré, le poème de Saint Jean de la Croix. C'est très régulier dans vos œuvres.
Oui, mais comment dire ? Je ne veux pas rester enfermée dans une appellation. Voilà. La musique sacrée, pour moi, c'est tout ce qui a trait à la liturgie, à la religion. Elle existe en tant que telle, mais elle est bien délimitée. Pour moi, mon propos n'est pas de faire de la musique sacrée, c'est, disons, de faire de la musique qui est imprégnée d'une expérience, disons, spirituelle. Voilà, ceci dit, ça m'est de plus en plus difficile d'en parler, parce que je trouve que les mots sont très difficiles à trouver en ce qui concerne cette question, particulièrement cette question du spirituel, particulièrement aujourd'hui. Et donc plus je vais, plus je me dis, je n'en parlerai plus.
Et la musique en parle.
Mais
en fait,
voilà, je ne suis pas du tout contre le fait de répondre aux questions que vous me posez, parce que c'est au contraire quelque chose que j'ai tout à fait intégré.
Une autre de vos inspirations, évidemment, on en parlait tout à l'heure, ce sont les autres arts. J'ai noté que vous étiez inspiré, d'ailleurs pour le concerto pour alto que nous avons entendu en entrée de cette émission, vous êtes inspiré d'une peinture de Nicolas de Staël,
oui,
que vous avez vue lors de l'exposition au centre Georges Pompidou en 2003.
Tout à fait.
Vous l'aviez juste vue en passant, et vous avez une reproduction chez vous? Comment ça s'est fait?
Oui, je l'ai vue d'abord parce que Nicolas de Staël, j'avais une grande admiration pour son parcours, et surtout parce que c'est quelque chose qui nous rapproche aussi, c'est un peintre de la nécessité, c'est-à-dire que la peinture était pour lui une nécessité vitale. Et donc j'avais une grande admiration et je partageais vraiment beaucoup son expérience. Et donc quand j'ai été voir cette exposition, c'est vrai que c'est une toile que j'ai remarquée. Et donc je l'ai longuement regardée parce que j'avais donc bien sûr le catalogue, et petit à petit m'est venue l'idée de faire ce concerto sur cette toile, parce qu'il y avait aussi dans cette toile ce côté extrêmement déchiqueté et quelque chose en ocre et transparence qui m'a évoqué la couleur de l'alto aussi.
Ah oui.
Donc j'ai fait cette œuvre en trois parties sur les trois aspects aussi de sa vie, c'est-à-dire toute cette partie de ses œuvres qui sont vraiment des œuvres de souffrance, enfin des œuvres déchiquetées, et puis deuxième partie de son œuvre qui est axée sur le mouvement, ce qui rejoignait aussi beaucoup mes préoccupations, toute la série des footballeurs, et enfin dernière partie de sa vie qui est une recherche de la lumière et de la transparence. Et une de ses dernières paroles, d'ailleurs, avant de se suicider, c'était « pour trouver la grande lumière ». Il disait qu'il avait l'impression d'avoir un mur devant lui, et avec une petite échappée sur la gauche, où là, il pouvait entrevoir la grande lumière. Donc c'était son obsession, pour trouver la grande lumière. Donc pour moi, c'est aussi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une sorte de parcours mystique, en un sens, mais qui, bien sûr, ne s'est pas décrit comme tel. Et qu'il ne faut surtout pas récupérer comme tel, en plus.
Vous vous retrouvez aussi dans le parcours de la poétesse américaine Emily Dickinson?
Oui, ça, Emily Dickinson. Mais vous savez, je ne suis pas du tout quelqu'un de culture. Je veux dire, je ne cultive pas la culture pour elle-même. Ça, c'est une démarche qui m'a toujours un peu agacée. Mais par contre, j'aime beaucoup les rencontres. Les rencontres littéraires, les rencontres picturales, les rencontres avec les artistes. Et Emily Dickinson, c'est pareil. Ça a été une rencontre. C'était dans une librairie. Je suis tombée sur un petit recueil de poèmes. Et puis, j'ai trouvé vraiment une grande similitude de parcours, enfin une grande affinité avec elle.
Est-ce que ça veut dire que votre art se nourrit forcément d'art extérieur, qu'il se nourrit plus d'art extérieur même que d'autres musiques?
C'est ce que je peux appeler un stimulus, au sens originel du terme. C'est un stimulant, oui. Voilà, ça me met en route, disons. Et les autres musiques aussi, mais les autres musiques me dérangent. Par contre, par rapport à ma démarche de compositeur, c'est-à-dire que, oui, ça me dérange. Elles viennent troubler mon propre univers sonore. Donc, je préfère, en tout cas, quand je suis sur une œuvre, je préfère ne pas en écouter.
Donc, vous n'êtes pas de ces créateurs qui partent d'une musique
pas
pour
du
la
tout.
Détourner et partir
pas
sur
du tout.
D'autres
non, non,
choses.
Ça n'est absolument pas dans ma démarche. Non, non.
C'est quand même une démarche qui est assez courante aujourd'hui,
oui.
De reprendre même des thèmes de Bach, de
tout à
Mozart.
Fait. Tout à fait, mais ça, je suis complètement en dehors de la démarche des thématiques.
J'ai une citation de vous, permettez-moi que je parle à votre place. Vous dites que la musique doit se nourrir d'autre chose que d'elle-même,
oui.
De poésie, de philosophie. Vous avez aussi une licence de philosophie,
oui.
Il y a des philosophes aussi qui vous inspirent en particulier.
Oui, j'ai beaucoup aimé... l'existentialisme, enfin, tout le courant de l'existentialisme et tout le courant de la phénoménologie, particulièrement. À partir de Schopenhauer et particulièrement Heidegger, justement. Quand il parle de la poésie, justement, comme étant une certaine approche de l'être. Et je peux dire qu'effectivement, je pense que la création est une certaine approche de l'être. Alors là, on n'est plus dans le domaine de la philosophie, bien sûr. À la fin de ma licence de philosophie, j'avais été trouver Yankelevitch pour lui proposer un projet de thèse autour de Kierkegaard. Donc, vous savez qu'il est le père de l'existentialisme. Autour du rapport de Kierkegaard, d'un livre de Kierkegaard qui s'appelle Le concept de l'angoisse. Donc, c'est un titre antinomique en lui-même, puisque l'angoisse n'est pas un concept, c'est un sentiment existentiel. Et comme ce n'est pas un concept, cette angoisse ne peut finalement s'analyser, si on peut dire, qu'à travers des œuvres d'art. Et alors il m'avait répondu « Oui, où voulez-vous en venir ?» Et j'ai vu qu'à ce moment-là, je dépassais le cadre de la philosophie. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai décidé de me vouer à la musique.
En 1996, lors d'un entretien avec Corinne Schneider, vous avez dit à l'époque que vous aviez encore du mal à émettre une sorte de jugement global, à produire une synthèse de votre œuvre. C'était donc en 1996. Est-ce que aujourd'hui vous avez plus de recul sur votre œuvre?
Mais vous savez, une œuvre, elle se construit petit à petit, au fur et à mesure qu'on écrit. Je pense qu'au bout d'un certain temps, quand on se retourne, on voit les grandes lignes d'une œuvre. Je crois que c'est, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Donc c'est vrai que maintenant, je vois petit à petit, justement, quelles sont les lignes directrices que je développe de plus en plus au fur et à mesure de mes œuvres. Je pense qu'il y a une grande part de l'inconscient aussi dans la construction d'une œuvre. Et il faut d'ailleurs garder cette part. Je pense qu'une œuvre n'est pas issue d'un projet au départ auquel on se tient. Je crois qu'il faut laisser justement les aspirations profondes s'exprimer et ensuite on voit où ça mène.
Vous êtes aussi souvent qualifié de compositeur indépendant. Est-ce que vous avez quand même l'impression d'être dans une filiation? On parlait tout à l'heure de Maurice Orana. On peut même parler d'école à votre propos ou c'est absolument
non,
en dehors du,
oh,
en
non,
dehors
non,
du sujet?
Non, ça, je suis en dehors de toute école, non.
L'école de Maurice Orana quand même?
Non, pas du tout. Oh non, lui était justement un grand indépendant et je crois qu'il m'a donné justement au début en tout cas, la force d'être libre, parce que c'est une grande difficulté d'être libre pour un compositeur, justement, par rapport, mais ça, de tout temps, ça a été comme ça, par rapport aux écoles, par rapport aux tendances, par rapport aux esthétiques dominantes. Je pense que quand on a pour impératif d'exprimer son monde intérieur, je crois que c'est, de toute façon, c'est toujours difficile. On est toujours en marge. bien que j'ai ma place, hein, c'est pas du tout. Mais je crois qu'il faut une certaine force et puis s'y tenir. C'est pas seulement d'ailleurs dans ma musique que j'ai ce parcours d'indépendance. Je crois que c'est ma nature fondamentale. Ça, je crois que j'ai toujours été. Alors c'est peut-être un peu justement contradictoire avec l'Académie des Beaux-Arts qui est une institution extrêmement voilà. Bon, c'est comme ça.
Vous avez quand même l'impression d'appartenir à une école française, à produire une musique française.
Alors justement, le concept de musique française, ça, parlez-en à Dutilleux, il est toujours très très circonspect à ce sujet parce que justement, on l'a beaucoup enfermé dans ce terme de musique française. Donc je pense que, comment dire, la musique française correspond effectivement à ce que je disais tout à l'heure, à un certain sens du timbre, à un certain sens de l'orchestration, mais je pense pas, surtout actuellement, je crois qu'on peut pas dire qu'il y a une mondialisation de la musique, mais il y a quand même beaucoup d'influences diverses et que finalement, moi, ce qui me frappe beaucoup en écoutant les créations un petit peu de tous les pays, c'est qu'on a un peu l'impression d'entendre la même musique souvent. Donc, je crois qu'il y a là des influences diverses qui sont en train de changer les donnes.
Et peut-on parler enfin de femmes compositeurs? Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a une spécificité des femmes dans la composition? Puisque vous êtes la première femme compositeur à rentrer à l'Institut de France, cette question vous concerne?
Non.
Au premier plan?
Non. Pour moi, le problème n'est pas d'être femme compositeur, c'est d'être compositeur. Personnellement, j'ai jamais souffert d'être... J'ai jamais trouvé plus difficile d'être femme compositeur plutôt qu'un homme. Enfin, je n'ai pas voulu considérer le problème, mais en ce sens, ça m'a aidé. Mais j'ai jamais souffert de ségrégation ou de.
Et est-ce qu'il y a une complicité ou peut-être une désaccointance particulière avec d'autres femmes compositeurs?
Ah oui, bien sûr, oui. J'ai un très bon rapport avec Betsy Jelas et avec des consoeurs, si on peut dire, avec des collègues, bien sûr, oui. Je pense que c'est un problème qui ne se posera plus dans quelques temps. Ça, par exemple, regardez les cinéastes. Maintenant, il n'y a plus. C'est Agnès Vajda qui a ouvert la route, mais bon, on ne va pas plus poser de problème pour les femmes cinéastes, par exemple, ni pour les écrivains. Je pense que, bon, tout d'un coup, on a focalisé sur les femmes compositeurs parce qu'on s'est dit, ah oui, il y a eu Alma Mahler, la pauvre, ah oui, il y a eu Clara Schumann, la pauvre. Mais je pense que Betsy Jelas a fait énormément parce que là, c'est vrai qu'elle-même, alors, a vraiment ouvert une brèche. Mais pour notre génération, je crois que c'est plus un problème.
Pour clore cette émission, Edith Canet de Chuisy, nous allons écouter Allio. Allio qui veut dire ailleurs en latin.
Allio veut dire ailleurs, oui. Écoutez, ce thème de l'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que, pour moi, la musique, a la possibilité de nous entraîner vers un ailleurs. C'est-à-dire de suggérer ce monde que l'on ne connaît pas, tout ce qui nous dépasse. Pour moi, ça m'a toujours fasciné, cette dimension de ça. Comment appréhender tout ce qui nous dépasse? Comment appréhender tout cet au-delà de cette vie, de ce qu'on voit, de ce qu'on sent? Et c'est une chose qui me nourrit tous les jours, enfin, qui me stimule dans mon travail de savoir comment on va suggérer ce qui nous dépasse. Bon, bien sûr, ça va peut-être parler à certains et pas à d'autres. Mais voilà, c'était un petit peu ce qu'il y a de contenu dans ce titre.
Nous écoutons donc un extrait d'Allio. Merci beaucoup, Edith Canet de Chuisy.